You rock.
Classique 21, le moment M. Jean-Louis Lahaye.
Mars 2003, Londres. Le jour où l'armée de Sa Royale Majesté entre en guerre. Dans la rue, au pub, à la télé, on parlait de représailles. Il n'y avait plus que ça dans les conversations. Justice, vengeance, sécurité. On nous répétait qu'on n'avait pas le choix, qu'il fallait soutenir nos alliés. Au début, j'ai voulu y croire, comme tout le monde. J'ai hoché la tête quand j'entendais dire qu'on ne pouvait pas laisser faire. Mais très vite, j'ai senti le malaise grandir en moi. Le sentiment que tout ça sonnait faux. Dans le métro, les affiches avaient changé. Plus de publicités légères ou d'annonces de concerts. À la place, des avis de vigilance, des avertissements sécuritaires, presque militaires. Dans les journaux, chaque photo montrait des soldats déployés. Des drapeaux brandis sous la pluie. Et Tony Blair, toujours impeccablement coiffé, répétait les mêmes mots. Nous devons être aux côtés de l'Amérique. Je regardais ces images avec un mélange de colère et d'impuissance. On nous parlait de menaces invisibles. On montrait des fioles, des plans, des dossiers top secrets qui paraissaient sortis d'un film. Et moi, dans ma chambre, je cherchais en vain la logique, la vérité, la justice dans tout ça. Mes parents, eux, avaient déjà choisi leur camp. « On ne peut pas les laisser attaquer impunément », répétait mon père, le journal serré dans ses mains. J'avais pas envie de discuter. Pas envie de leur dire que j'étais allé marcher le week-end dernier avec des milliers d'autres pancartes à la main « Not in my name ». Je l'avais écrit moi-même. Marqueur noir. Dans la foule, les enfants perchés sur les épaules de leur mère, des gens de tous âges et de toutes origines, qui scandaient des slogans qu'on n'osait pas répéter en famille. Il faisait gris, froid, et pourtant cette journée-là, pour la première fois depuis des mois, j'ai eu l'impression d'être vivant, d'être du bon côté. Au fil des semaines, la tension montait, les informations devenaient plus alarmantes. On parlait d'armes, de dictateurs, de tyrannies. On diffusait des discours effrayants, des images de camps d'entraînement, d'avions, de bombes. Le mot « Irak » revenait de plus en plus souvent. Qu'est-ce qu'on cherchait vraiment ? À la télévision, un Tony Blair, toujours calme, toujours déterminé, disait qu'il avait vu des preuves, qu'il était de son devoir de protéger le pays. Les Américains affirmaient que la guerre était inévitable. Autour de moi, les discussions devenaient de plus en plus dures. Certains de mes amis, qui marchaient à mes côtés quelques semaines plus tôt, avaient déjà cessé de protester. À quoi bon ? Ils ont déjà décidé. D'autres, au contraire, s'énervaient plus fort encore. Criaient dans les assemblées étudiantes, distribuaient des tracts, collaient des affiches sur les murs de la ville. Je voyais mon pays glisser jour après jour, vers une guerre dont personne ne voulait vraiment parler. Le 20 mars, en rentrant chez mes parents, Blair était une nouvelle fois à l'écran, debout, derrière son pupitre. Il parlait de responsabilité, de liberté, de menace. Il répétait que Saddam Hussein détenait des armes de destruction massive, qu'il était proche d'Al-Qaïda et donc, indirectement, lié aux attentats du 11 septembre. Que la guerre en Irak était une prolongation logique et nécessaire de la lutte contre le terrorisme. Il disait qu'il avait tenté d'éviter la guerre, que la diplomatie avait échoué, que notre devoir était désormais clair. Nous devions soutenir l'Amérique, pour notre sécurité, notre avenir. Je voyais ma mère acquiescer doucement, mon père serrer les dents, les yeux humides. Je me suis levé. J'ai claqué la porte et je suis sorti. Ce soir-là, j'ai compris. on avait choisi de marcher dans les pas des Américains, de partir en guerre. Un 20 mars 2003, que je n'oublierai jamais. Je n'avais plus de mots et une seule certitude. Jamais en mon nom, not in my name. Cette jeunesse obligée de participer à une guerre que beaucoup estiment fondée sur des mensonges est à l'origine du morceau « Soldier's Poem » composé par Matthew Bellamy, leader et moteur créatif du groupe Muse. Entre 2003 et 2005, Matthew Bellamy, Matt pour les fans, voit la guerre s'enliser, les mensonges sur les armes de destruction massive révélés. Il sent aussi l'opinion publique britannique basculer franchement contre la guerre. Il lit quantité d'articles sur les soldats britanniques tombés en Irak et en Afghanistan. Beaucoup laissent des lettres où ils expriment leur totale désillusion. Le morceau sort le 3 juillet 2006 sur l'album Black Holes and Revelations. Soldier's Poem parle du fait d'être envoyé à la guerre pour des raisons qui ne sont pas justes, de faire partie d'un système plus vaste qui nous dépasse et de réaliser qu'on sacrifie sa vie pour quelque chose en quoi on ne croit pas. Matt dira, c'est l'histoire d'un soldat, mais ça parle aussi de nous tous. Muse donne ici la parole à un jeune homme envoyé au front, qui réalise que sa mission est mensongère. Il s'adresse à ceux qui ont pris les décisions, dirigeants, politiciens, chefs militaires, et les confronte à leur hypocrisie. Mais le ton n'est pas violent. Il est tristement lucide et résigné. Les paroles expriment des illusions perdues, la culpabilité de l'Occident, une cause indéfendable. It's a shame we're all dying, and do you think you deserve your freedom? C'est une honte que nous mourions tous. Pensez-vous que vous méritez votre liberté? Un vers qui fait l'effet d'un miroir moral brutal, d'autant plus glaçant qu'il est chanté doucement. Un message qui s'adresse clairement à ceux qui ont lancé cette guerre. Peut-on revendiquer la liberté quand on ferme les yeux sur la guerre, les mensonges, la manipulation? Le soldat accuse l'autorité de l'avoir trahi. Peut-on se sacrifier pour une cause injuste? Comment avez-vous pu nous envoyer si loin de chez nous, alors que vous savez très bien que c'est injuste? Malgré tout, le soldat exprime qu'il serait prêt à se sacrifier. Non pas par adhésion à la cause, mais peut-être par loyauté, par amour ou par désespoir. Cela rend la chanson encore plus déchirante. Le héros est conscient de l'injustice, mais n'échappe pas à sa condition. Ça donne une fin plutôt surprenante et contrastée avec cette confession. Je donnerai encore ma vie pour vous, mais pensez-vous que vous méritez votre liberté? Musicalement, le morceau est une ballade douce-amère avec des harmonies vocales rappelant les Beatles ou Queen. L'ambiance est minimaliste et intime, à contre-courant du style habituel de Muse. Un dépouillement qui sert directement le propos. On est dans la confession, dans la vulnérabilité. Le ton est doux, mélancolique, en contraste total avec la colère des paroles. Cela accentue le sentiment d'ironie tragique. Les chœurs en arrière-plan créent un effet de chant funèbre ou de prière, composé en plein désenchantement post-2003, une époque où le scandale des armes fictives en Irak est désormais reconnu, Soldier's Poem est l'exact opposé d'une chanson de propagande. Elle démonte le mythe du héros et humanise celui qui doute, qui n'en peut plus. C'est une chanson antimilitariste, mais subtile. Pas de slogan, pas de drapeau brûlé, juste le poids du doute. Les enquêtes américaines et internationales démontreront qu'il n'existait aucune preuve d'un lien opérationnel entre Saddam Hussein et Al-Qaïda, ni d'une quelconque implication irakienne dans les attentats du 11 septembre. L'un des principaux arguments avancés, le fait que l'Irak détenait des armes de destruction massive et représentait une menace immédiate, s'est également révélé faux. Aucune arme de ce type n'a jamais été retrouvée en Irak.
Retrouvez tous les épisodes de cette séquence sur l'app gratuite RTBF Actu.
Découvrez toute l'offre podcast de votre radio préférée sur classique21.be.